précisément 6h du matin. Très bon réveil à tous.
Ce médicament, il a été sur le marché pendant plus de 30 ans en France. Le risque de survenue d'événements qui seraient inconnus est très 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 faible.
Un suppositoire matin et soir pendant 5 jours. Après de nombreux mois d'attente, les chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille vont enfin tester leur médicament contre le Covid. Dans ce journal J-2, avant les élections régionales en France, focus sur le candidat RN Julien Odoul qui pourrait remporter la Bourgogne-Franche-Comté. 42 ans après la mort de Robert Boulin, sa fille dénonce la lenteur de l'enquête et assigne l'État pour faute lourde. Et puis un match très politique. Demain, les Bleus affrontent la Hongrie à l'Euro de football.
À suivre la page des sports justement. Et mon invité inattendu pour saluer le lancement ce week-end du Hellfest. La grand-messe du rock metal se tient en ligne cette année avec une édition en revanche anniversaire exceptionnelle déjà prévue pour l'année prochaine. Mon invité sera une romancière que vous allez découvrir, Fana de guitare et de hard rock. Je l'appelle à 6h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Y aura-t-il bientôt un traitement contre le Covid? L'Institut Pasteur de Lille s'apprête à en tester un pour soigner la maladie. Des essais cliniques sur plus de 600 patients de plus de 50 ans et non vaccinés. Benoît Després, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille.
Ce traitement, c'est le clofoctol, principe actif, qui présentait une très forte activité contre le virus SARS-CoV-2 in vitro. Les patients sont des patients qui ont plus de 50 ans, qui ont des symptômes récents et qui sont positifs à la Covid, évidemment. C'est un traitement par suppositoire et il y a 10 suppositoires dans le traitement, 2 par jour pendant 5 jours. Ce médicament, il a été sur le marché pendant plus de 30 ans en France. Il est toujours disponible en Italie, qui est utilisé pour traiter des affections bactériennes. Le risque de survenue d'événements qui seraient inconnus est très 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 faible. On attend une première analyse des résultats aux alentours du 15 septembre.
Des propos recueillis par Yasmine Akatou. En attendant, le nombre d'hospitalisations continue de baisser. Un peu plus de 11 000 patients en ce moment et moins de 1 800 malades dans les services de réanimation.
Nous sommes à 2 jours du premier tour des élections régionales. C'est le dernier jour de campagne aujourd'hui pour les candidats.
Et l'une des régions qui est scrutée de près, c'est la Bourgogne-Franche-Comté tenue par la gauche, mais où le candidat du Rassemblement National, Julien Odoul, pourrait l'emporter. Et cela malgré les polémiques qui se succèdent. Claudia Bartram.
C'est l'un des meilleurs espoirs du RN, mais Julien Odoul est aussi rompu aux polémiques. Elles n'ont pas manqué durant la campagne. Divulgation d'un enregistrement où il fait de l'humour douteux sur le suicide des agriculteurs. Contestation en interne, appel d'un candidat de son propre camp à voter contre lui. Julien Odoul dénonce des boules puantes.
Certains ont essayé d'alimenter, d'orchestrer des polémiques qui sont évidemment montées de toutes pièces. Pour ne pas parler du fond, je fais campagne sur les propositions, sur le projet pour une région qui vous protège. Et c'est sur cela que je serai jugé.
Tout cela ne l'empêche pas de faire la course en tête au premier tour dans les sondages. Le second tour s'annonce serré face à la présidente sortante. La socialiste Marie-Guy Dufay peut espérer conserver la région si En Marche finit par se retirer ou la soutenir. Le candidat RN tente donc de séduire l'électorat de la droite.
J'appelle les électeurs LR à voter utile. J'appelle au sursaut pour faire barrage à la gauche, pour faire barrage à Macron. Je suis le seul dans cette élection à pouvoir battre la candidate sortante. Je suis le seul à pouvoir battre la gauche.
Le parti mise sur lui tout en étant conscient qu'en cas de victoire, il pourrait être incontrôlable. Un cadre le dit, tout le monde a en tête qu'il faut le surveiller.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Le premier tour des élections qui pourrait être marqué par un taux d'abstention record entre 59 et 64% selon un sondage publié hier. Emmanuel Macron commémore aujourd'hui le 81e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle en présence du dernier compagnon de la libération, Hubert Germain, et du seul survivant du commando Kieffer, Léon Gauthier, qui recevra la médaille de grand officier de la Légion d'honneur.
Plus de 40 ans après la mort de Robert Boulin, sa fille, Fabienne Boulin, assigne l'État pour faute lourde.
L'ancien ministre du Travail avait été retrouvé mort dans un étang de la forêt de Rambouillet en 1979. L'enquête, réouverte en 2015 pour assassinat et enlèvement, n'avance toujours pas, selon Fabienne Boulin, malgré des demandes d'actes répétées.
J'espérais, il y a 5 ans et demi, quand il y a cette nouvelle plainte qui a été acceptée, que la justice allait se ressaisir et me donner toutes les chances de connaître enfin la vérité sur les causes de la mort de mon père. Bon, il se passe pratiquement rien. On nous dit oui, c'est très bien, c'est très légitime aux demandes, mais on n'y accède pas. Donc ça fait quand même 42 ans, est-ce qu'il faut que j'attende encore 20 ans? Quand mon père était ministre en exercice, il a été résistant, il a été maire, il a été député pendant 20 ans. C'était un homme droit, hein, bien qu'on essaye de salir pour justifier toujours le suicide. Et donc, il faut que la vérité passe dans le dossier Boulin. Voilà, c'est, ça suffit, cette mascarade.
Fabienne Boulin, la fille de Robert Boulin, jointe pour Europe 1 par Gladys Laffitte. Du nouveau dans l'affaire de la mort de Steve Maya Canisso, tombé dans la Loire il y a 2 ans lors de la fête de la musique à Nantes. Après l'analyse des relevés de son téléphone, l'enquête établit que sa chute a bien eu lieu lors de l'intervention de la police.
La suite du procès en appel de Willy Bardon, accusé du meurtre d'Élodie Kulik dans la Somme en 2002.
Avec un face-à-face tendu hier entre l'accusé et le père de la victime, Jackie Kulik. Un père qui réclame justice depuis près de 20 ans et qui se dit convaincu de la culpabilité de Willy Bardon. Lionel Gougelot.
Les mains fermement accrochées à la barre de la cour d'assises, Jackie Kulik témoigne pour, dit-il, rendre hommage à sa fille, cette jeune femme brillante que tout le monde considérait comme un modèle. Mais rapidement, le témoignage se transforme en réquisitoire. « Je suis venu pour voir punir gravement l'un des prédateurs d'Élodie, sa fille, dont le souvenir du corps torturé et calciné le hante à jamais. » Régulièrement, le père meurtri, qui dit avoir fait de la recherche des bourreaux de sa fille le combat de sa vie, jette un regard noir en direction de Willy Bardon. « Ma conviction est faite, assène Jackie Kulik, c'est bien la voix de Bardon que l'on entend sur la bande-son de l'appel au secours d'Élodie au moment de son agression, avant de le défier à distance. Si j'avais été là à l'époque, malgré notre différence d'âge, devant la bravade, Bardon reste de glace, le regard fixe. Puis Jackie Kulik se tourne à nouveau vers la cour. « Je suis opposé à la peine de mort, poursuit le septuagénaire, mais je lui souhaite de nombreuses années de prison. » Seule réponse de l'accusé en toute fin d'audience, c'est très dur d'entendre tout ce qui se dit ici. Douai, Lionel Gougelot, Europe 1.
6h07 sur Europe 1. L'actualité à l'étranger et après 10 ans d'absence, l'ancien président Laurent Gbagbo a fait son retour en Côte d'Ivoire.
Après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale de La Haye en mars dernier, pour son conseiller Bernard Houdin, ce retour va donner un élan de dynamisme au pays car Laurent Gbagbo reste une voix forte en Côte d'Ivoire.
À chaque fois qu'on me pose la question, est-ce que le président Gbagbo va revenir en politique en Côte d'Ivoire ? Je dis, il ne va pas revenir en politique pour une simple et unique raison, c'est qu'il n'en est jamais parti. Même à la prison de La Haye, il était un des points focaux de la vie ivoirienne. Et aujourd'hui, que Gbagbo sorte blanchi de la CPI, retourne à Abidjan et puisse continuer sur place la politique qu'il a toujours voulu mener, les Ivoiriens, et je pense que c'est au-delà des gens de son parti. C'est un sentiment qui est transreligieux et transethnique et transpolitique en Côte d'Ivoire. C'est la décrispation totale de la situation politique en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo, c'est la seule personne qui est capable de dire aux gens « asseyons-nous et discutons », parce que la vie politique se fait à travers le débat qui avait totalement disparu depuis 10 ans.
Bernard Houdin avec Aude Leroy pour Europe 1. L'Iran commence à voter ce matin pour élire son nouveau président. L'ayatollah Khamenei a ouvert le scrutin officiellement. Scrutin qui risque d'être marqué par une forte abstention.
Et puis J-1 avant le deuxième match des Bleus à l'Euro. Ce sera donc demain contre la Hongrie.
Et l'ambiance s'annonce déjà bouillante sur place avec près de 70 000 Hongrois dans le stade demain. Et en toile de fond, Jean-François Pérez, eh bien, il y a les relations de plus en plus tendues entre les dirigeants hongrois et l'Union européenne.
Oui, derrière la carte postale de cette magnifique capitale, les points de friction se multiplient entre Viktor Orban et ses homologues du continent. Atteinte à la liberté de la presse, loi jugée homophobe, discours sans nuance sur l'immigration, rapprochement avec la Russie, ce match arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Américo est guide touristique à Budapest depuis 20 ans. Il ne soutient pas forcément le tonitruant Premier ministre, mais il comprend sa politique.
Les Hongrois ont perdu leur identité. Orban essaie de les réveiller. Hey, vous êtes Hongrois, c'est bon d'être nationaliste. Quand vous dirigez la grosse entreprise qui est l'Union européenne, vous ne voulez pas que la petite vous résiste. Donc l'Europe de l'Ouest n'aime pas que la Hongrie regarde aussi vers l'Est. Notre futur est davantage à l'Est qu'à l'Ouest.
Membre de l'Union européenne depuis 2004, la Hongrie est farouchement attachée à son indépendance. Cet euro et ce match contre la France sont pour elle bien plus que du foot. Il en va de cette fierté nationale que Viktor Orban revendique. Seule condition, être bien meilleur que face au Portugal. Public déchaîné ou pas, les Hongrois s'étaient inclinés 3-0.
Merci Jean-François Pérez, envoyé spécial à Budapest pour Europe 1. Et on vous retrouvera, commentaire du match évidemment, demain avec Cyril de la Morinerie.
Demain après-midi, hein, attention, le coup d'envoi c'est à 15h de ce Hongrie-France dont on va parler dans le le journal des sports. Merci à vous Sophie Echen. 6h10, Léna Hecmonnier est là pour les sports. Les Bleus justement, ils sont déjà dans le bain avant d'affronter la Hongrie.
Oui, match qu'il faudra gagner pour se mettre à l'abri et se qualifier avant même d'affronter le Portugal, l'autre co-leader de la poule. Les Bleus qui restent concentrés sur leur objectif, ce n'est que le début de la compétition pour les champions du monde en titre. On écoute le défenseur Lucas Hernandez.
J'ai pas l'impression qu'on fait peur. J'ai l'impression qu'on est une très grosse équipe. On montre sur le terrain qu'on est capable d'arriver très loin. Maintenant, c'est à nous de continuer avec ce deuxième match face à l'Hongrie. Ça sera pas facile parce que bon, le stade il sera plein. Ça sera une autre bataille, ça sera une autre guerre et il va falloir répondre présent.
Lucas Hernandez avec Cyril de la Morinerie. On le disait il y a un instant, un pas de jauge en effet en Hongrie, un stade qui sera plein à craquer.
Et on sait par ailleurs que Didier Deschamps compte faire tourner un peu son effectif.
Pour reposer ses cadres, on pense à Pavard notamment, mais c'est vrai que le banc fait rêver. Giroud, Coman, Dembélé, Lemar, Tolisso, c'est une équipe de coiffeurs 5 étoiles. Pour autant, notre consultante Aline Riera estime qu'il ne faut pas tout bouleversé.
Je reste persuadée qu'on doit être dans la continuité, surtout sur un deuxième match, même si on voit que les organismes sont mis à rude épreuve. Peut-être certains profils qui ont été un petit peu gênés par des pépins physiques, on pourrait les protéger. Je pense à un Pavard, pourquoi pas, il faut voir. Alors il a eu le neurologue, a dit c'est bon, il est apte. Mais je pense que les joueurs, quand ils sont dans cette compétition, ils ont envie de jouer. Il faut effectivement concerner tout le monde, mais je sais Didier Deschamps assez conservateur, je ne le vois pas faire beaucoup tourner.
Aline Riera, consultante Europe 1 pendant l'Euro, Didier Deschamps qui aura tout son effectif à disposition demain. Là, il doit se passer 24 heures de Kingsley Coman qui a fait un aller-retour en Suède. Il rejoint son épouse qui vient d'accoucher.
Ah bah voilà, un heureux événement en plein pendant l'Euro. Entre-temps, deux nouvelles équipes se sont qualifiées hier soir.
Les Pays-Bas et la Belgique, les Pays-Bas vainqueurs de l'Autriche 2-0, la Belgique qui a dominé le Danemark 2-1. Aujourd'hui, on suit Angleterre-Écosse en fil rouge sur Europe 1, au programme aussi Croatie-République tchèque. Et puis en parallèle, on dispute la Copa América avec un Neymar très en jambes et une nouvelle fois buteur. Et le Brésil qui a écrasé le Pérou 4-0. Ça fait 2 victoires en 2 matchs pour la Seleção.
On suit également l'Euro féminin de basket.
Avec une entrée fracassante des Françaises, elles ont très largement dominé la Croatie. 105 à 63, une vraie leçon offensive. Défensive également, avec pas moins de 54 rebonds pour les Françaises. Très encourageant avant de rencontrer les Tchèques ce soir.
Le tennis pour terminer. Federer, Nadal, finalement, même combat, celui de ne pas faire le match de trop.
Oui, l'Espagnol renonce à Wimbledon et au JO pour, dit-il, écouter son corps. Forfait aussi pour les Jeux de Dominic Thiem. En revanche, c'est bien là que devrait faire son retour Naomi Osaka devant son public. Elle ne jouera donc pas Wimbledon non plus.
En revanche, Roger Federer, lui, sera là.
Wimbledon. Normalement.
Il s'est réservé.
Il se préserve en tout cas, oui.
Il s'est préservé pour ça.
Tout à fait.
Merci Léna Hecmonnier, 6h12. C'est le rendez-vous des amoureux du rock et même du hard rock, du métal. Le festival Hellfest a été annulé cette année, mais il se tient ce week-end sur Internet. Et c'est surtout ensuite un énorme événement qui se prépare pour l'année prochaine. C'est une fana de rock et de métal qui est mon invitée inattendue ce matin. Bonjour.
Bonjour, je suis Amélie Nothomb, je suis une romancière belge et je suis fan de métal.
Bonjour à vous Amélie Nothomb, bienvenue sur Europe 1. Et bien on va parler musique avec vous dans un instant. A tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
César Écart sur Europe 1. Mon invité inattendu est une métalleuse inattendue, Amélie Nothomb. Merci encore d'être avec nous à l'occasion de ce festival Hellfest qui se tient ce week-end virtuellement en attendant le retour de la scène l'année prochaine. Alors Amélie Nothomb, j'ai vu que vous écoutiez non seulement du métal, mais surtout en faisant le ménage, c'est vrai ?
Mais il n'y a rien de tel, non seulement pour avoir la force de faire le ménage, mais j'ai envie de dire, même pour écouter le métal. Je trouve que métal et ménage font curieusement très très bon ménage. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je le constate à chaque fois.
Bref, ça donne de l'énergie peut-être.
Ça donne de l'énergie et ça fait ressortir certains accords de la musique.
Ah oui, donc vous faites le ménage en rythme.
Exactement.
Vous êtes du genre à mettre la musique à fond à la maison ?
À fond. Bah, le métal, par définition, ça s'écoute à fond. Le métal ne vous rend pas sympathique à vos voisins, il faut bien vous dire ça.
Est-ce que vous écoutez ce genre de musique, y compris quand vous écrivez ? Quand même pas.
Non, surtout pas. Quand j'écris, il faut que je me concentre. Et le métal est une musique géniale, mais qui ne concentre pas particulièrement.
Alors Amélie Nothomb, quels sont les groupes que vous écoutez, les groupes que vous aimez ?
Alors, j'ai commencé ma carrière de fan de métal très classiquement avec Metallica, avec Rage Against the Machine. Et maintenant, je suis absolument fanatique d'un groupe de métal progressif qui s'appelle Tool, qui est assez peu connu, mais qui est absolument génial.
Cet univers du métal, il vous a inspiré dans vos livres?
Mais comment vous dire qu'il va bien avec mon inspiration? Bon, par exemple, je suis très mystique, j'aime beaucoup les élans verticaux, et ça, c'est très très métal. Quand vous écoutez les paroles du métal, mais très régulièrement, elles sont de la mystique pure, d'ailleurs de la mystique parfois anti-mystique. Hein, on invoque autant Jésus que le diable. Le fait est là, la verticalité et la mystique, ils sont extrêmement présentes. Et c'est un discours mystique qui est très puissant. C'est pas des petites liturgies, c'est pas de la musique de chambre, comme on s'en doute. Les paroles de métal sont régulièrement de la mystique de la plus grande puissance.
Le Hellfest, c'est le grand rendez-vous du oui. métal en Loire-Atlantique, avec ce public déchaîné dans la fosse. Bon, il n'a pas lieu cette année, on comprend un oui. peu pourquoi, ça aurait été compliqué d'appliquer les gestes barrières. Oui. Vous en êtes une habituée, vous êtes déjà allé?
Moi, j'étais au Hellfest 2019, quand, comme on dit, je l'ai fait du début à la fin. Ça a été un des plus grands moments de ma vie, le Hellfest 2019. J'y étais allée précisément parce qu'il allait se faire clôturer par mon fameux groupe fétiche Tool. Pour autant, j'étais là, j'ai fait les 4 jours, du début à la fin, j'ai tout écouté. J'ai tout vécu. Quand je suis partie de là, il était 2h du matin le lundi, après 4 jours de métal constant. Je peux vous dire que je suis partie de là, mais complètement en transe.
et l'année prochaine, je ne sais pas si vous en serez, mais là, ça ne durera pas 4 jours. Ça va carrément durer une semaine, étalée sur 2 week-ends, à l'occasion du 15e anniversaire du Hellfest. 350 groupes. Et notamment, pour la première fois, Metallica.
Metallica, mais mon Dieu, il faudra absolument que je sois là.
C'est le groupe par excellence?
C'est, comme son nom l'indique, tout fan de métal considère Metallica un peu comme son père et sa mère.
Et bien, on va en écouter un petit morceau de Metallica. Il y aura aussi System of a Down, Deftones,
oui, quelle pure merveille.
Guns N' Roses aussi à Hellfest l'année oui. prochaine. Et vous, Amélie Nothomb, vous serez en librairie à la rentrée avec votre prochain roman, Premier Sang. Merci à vous d'être passé par Europe 1 ce matin.
Merci infiniment.
Bonne journée.
Vous aussi, au revoir.
Metallica sur Europe 1, Nothing Else Matters, 6h19.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Et l'actualité ce matin sur Europe 1, c'est notamment cette question, la vaccination deviendra-t-elle obligatoire pour les personnels d'EHPAD? L'idée est envisagée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui estime que les soignants ne sont pas suffisamment vaccinés. 6 mois de prison ferme requis contre Nicolas Sarkozy au procès de l'affaire Big Malion, ainsi qu'une amende de 3 750 €. Et puis de nouvelles frappes israéliennes cette nuit sur la bande de Gaza contre des cibles du Hamas, en représailles selon l'armée à des tirs de ballons incendiaires vers Israël un peu plus tôt dans la journée. Ah oui, c'est comme ça, dans le 5-7, on change de style, on passe du métal à Paul McCartney avec les Wings dans la partition d'Omblin Roche dans quelques secondes. A tout de suite.
Europe 1.
Il est 6h22 sur Europe 1 et c'est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche chaque matin, l'histoire derrière une chanson ou derrière un artiste ce matin qui fait partie du plus grand groupe du monde, l'un des plus influents. Mais comment fait-on Omblin après avoir été un Beatles pour être à nouveau populaire avec une autre formation? Ma réponse, il faut être Paul McCartney.
When you were young and your heart was an open book.
Je savais que ce serait difficile, dit-il. On se trouve au milieu du hit parade, comme tous ces autres groupes, au lieu d'être les numéros 1 incontestés. Mais j'avais toujours su que ça arriverait. Paul McCartney, la tête sur les épaules, prolongée par des ailes qui lui permettent de retrouver les sommets. Et il fallait avoir les reins solides. Son groupe, les Wings, a résisté à des années de critiques et d'incompréhension. C'est live and let die.
Le 10 avril 1970, Paul McCartney annonce à la presse la mort des Beatles.
Oui, cela fait des mois que le divorce est consommé, mais cette déclaration officielle fait du musicien le responsable principal de la rupture du groupe. Linda McCartney, sa femme également, au même titre d'ailleurs que Yoko Ono, hein, le double de John Lennon.
Et c'est entre les murs de sa ferme en Écosse que Paul McCartney compose ses nouvelles chansons.
Et qu'il apprend à Linda à jouer du piano, le couple travaille ensemble désormais. Was your first mistake? You took your lucky break and broke it into Too Many People, hein, cette chanson adressée directement à John Lennon, et il y en aura d'autres.
L'album Ram est le fruit de cette nouvelle collaboration. Il sort en mai 71. Et on ne peut pas dire que la critique soit très clémente, hein, avec le tandem McCartney.
On va reprocher à Paul d'avoir embarqué son épouse dans sa deuxième aventure musicale. Linda McCartney est une grande photographe dans le milieu de la musique et elle va longtemps rester cataloguée de groupie qui a réussi. Dès cette année de 71, le duo devient un groupe avec l'arrivée de l'ancien chanteur et guitariste des Moody Blues, Denny Lane. Pendant 10 ans, les Wings vont voir défiler de nombreux musiciens, mais le trio McCartney-Lane va rester inamovible. Someone's knocking at the door. Somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor. Open the door. Let them in.
Avec les Wings, Paul McCartney prouve qu'il n'a pas perdu la main, hein, en matière de mélodie blues, folk et pop rock.
Il retrouve les sensations du débutant. Les Wings vont publier 7 albums, 7 succès, un parcours sans faute. Avec comme point d'orgue la tournée en 1975 et 1976, Wings Over the World Tour. Paul McCartney retrouve les scènes américaines après 10 ans d'absence. La dernière fois, c'était avec les Beatles. Et pendant cette série de concerts, le groupe, au pic de sa popularité, enregistre l'album Wings at the Speed of Sound. You'd think that people would have had enough of a silly love song. But I look around me and I see it isn't so. Some people want to fill the world with silly love songs. And what's wrong with that? I'd like to come at all. I only know that when I'm in.
les Wings et Paul McCartney, Silly Love Song.
Paul McCartney qui répond aux critiques, hein. Je chante des chansons d'amour. Et alors, donc elle est volontairement un petit peu mielleuse et sirupeuse cette chanson.
79 ans aujourd'hui.
Bon anniversaire Paul McCartney.
Merci. Omblin Roche pour la partition que vous retrouvez aussi dans la matinale de Pierre de Villeneuve le week-end à 6h45.
Merci.
À demain donc.
À demain.
Laurent Cabrol, c'est à vous.
Eh bien, les orages sont là, en forme de vagues. La première vague, nous l'avons vue il y a 2-3 jours. Il y en a une hier, une autre, et une troisième qui arrivera demain. Donc, ces orages ont le mérite de nous apporter un petit peu de pluie, même pas mal parfois, de faire baisser les températures, ça c'est bien, mais enfin, ils gâchent un peu notre vie. Alors, aujourd'hui, ces orages sont dans le nord. Hier, ils étaient dans le sud, maintenant ils sont dans le nord. La Normandie, les pluies sont fréquentes. Sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, nous aurons de plus en plus d'intempéries orageuses dans le courant de la journée. Ça va s'arranger sur le Poitou-Charentes, l'Anjou et l'Ille-et-Vilaine. Et puis, si vous habitez la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, le Massif central, la Bourgogne, peut-être quelques averses orageuses ici ou là. À Paris, ben, c'est un régime aussi d'averses assez isolées dans un ciel qui aura quand même de belles percées ensoleillées. Et puis, si vous habitez le sud-ouest, la région Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen, attendez-vous à de belles périodes de soleil. Voilà, les températures maximales 22 à La Rochelle, 23 à Nantes, 24 à Poitiers, c'est respirable. 27 à Paris, ça va aller. 28 à Toulouse et Lille, 30 à Marseille, 31 à Épinal. Alors là, après, Lyon, Grenoble, Strasbourg, entre 33 et 34,
ah oui.
On continuera à faire chaud dans les régions de l'Est parce que les orages ne sont pas encore totalement arrivés dans ces régions de l'Est.
Et voilà pour être complet. Merci à vous, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Toute l'info, tout de suite votre journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
6h30.
Comme ça ne vous a pas échappé, j'ai un mandat jusqu'en mai 2022. Je ne touche rien des sujets qui sont régionaux. Je n'interfère pas dans cette campagne, je continue simplement le travail pour la nation et nos compatriotes.
Emmanuel Macron se défend de toute arrière-pensée électorale. Pourtant, hier, dans les Hauts-de-France, la visite du président avait des airs de pré-campagne pour l'Élysée. Autre élection présidentielle dès aujourd'hui, c'est en Iran. Ils étaient 7 candidats encore hier. Ils ne sont plus que 4 après des désistements. Nous rejoignons l'envoyé spécial d'Europe 1 à Téhéran. Et puis, imaginez la Joconde vendue pour quelques centaines de milliers d'euros. Une bouchée de pain pour la Joconde, ça vous paraît impossible. Une vente aux enchères a lieu en ce moment même. Je vous dis pas tout de suite s'il s'agit du vrai tableau.
Après le journal, un grand chef triplement étoilé est mon invité ce matin. Glenn Vielle, installé au Beau-de-Provence, vient non seulement de recevoir sa 3e étoile, mais une 4e et elle est verte. C'est la nouvelle distinction récompensant la gastronomie durable. Il vient nous expliquer ce matin sa démarche et son combat personnel pour l'écologie.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il venait défendre la lecture et l'ériger en grande cause nationale. Emmanuel Macron était hier dans les Hauts-de-France, visite qui a pu agacer Xavier Bertrand, le président de région, candidat à sa réélection. Premier tour du scrutin dans 2 jours. Mais pour Jean-Rémy Baudot, du service politique d'Europe 1, qui a suivi la visite d'Emmanuel Macron, ce n'est pas l'enjeu régional qui animait le président hier.
Des mains tendues, des selfies et un Emmanuel Macron qui profite de sa liberté retrouvée au contact.
À la fois l'éducation, la culture, la langue française, pour venir aussi au...
Officiellement pas de politique. Et bien qu'il soit dans les Hauts-de-France, le président prend soin de ne pas parler des régionales. Aucune allusion à la liste LREM. Dans ce Tour de France, Emmanuel Macron, comme sur un petit nuage, profite et prend tous les compliments qu'il y a à prendre. Dans ses bains de foule, depuis l'étape de Valence, on note le retour de sa femme, Brigitte. À ses côtés, elle lui tient le bras, parfois fébrilement. Elle ne semble pas toujours très rassurée depuis l'épisode de la gifle, mais cette présence fut néanmoins très appréciée hier soir. S'il manœuvre en coulisses pour torpiller la droite et combattre le RN, Emmanuel Macron n'utilise pas ce Tour de France pour faire campagne pour les régionales, non. Il fait avant tout campagne pour lui-même. Jean-Rémy Baudot, Europe 1.
Au procès Big Malion sur les dépenses de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012, c'était hier l'heure des réquisitions du parquet.
Oui, la procureure a demandé des peines allant de 18 mois à 4 ans de prison pour les 13 prévenus renvoyés pour fraude. 1 an de prison, dont 6 mois ferme à l'encontre de l'ancien président. Alors Chloé Triomphe, vous étiez au tribunal pour Europe 1. Les deux représentants du parquet ont pointé du doigt ce qu'ils appellent sa désinvolture.
Oui, c'est peu dire que les deux procureurs n'ont guère apprécié le choix de l'ancien chef de l'État de n'assister qu'à une seule audience, celle de son interrogatoire. Pour les magistrats, cette attitude signe une désinvolture vis-à-vis de ses coprévenus, une manière de se placer hors de la mêlée et de ne pas se considérer comme un justiciable comme les autres. Les mots sont sévères et la démonstration sans concession. Il reproche à Nicolas Sarkozy, qui n'est pas renvoyé pour fraude mais pour financement illégal de sa campagne, d'avoir sciemment ignoré les alertes des experts comptables sur le risque de dépassement des plafonds de dépenses et d'avoir, bien qu'il s'en défende, bel et bien mené une campagne en or massif, avec à la clé un dépassement de plus de 22 millions d'euros du plafond autorisé. Et à partir de là, vogue la galère, ironise l'un des procureurs, quand la seconde ose une comparaison avec le sport de haut niveau, où la victoire se joue à quelques millimètres. En sport, dit-elle, la limite c'est le dopage, dans une campagne c'est le financement illégal. Ils ont donc requis le maximum autorisé, soit un an de prison, assorti de 6 mois ferme à l'encontre de Nicolas Sarkozy.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Cela fait maintenant 2 heures que les bureaux de vote ont ouvert en Iran, élection présidentielle pour désigner le successeur d'Hassan Rouhani.
Oui, on va rejoindre immédiatement l'envoyé spécial d'Europe 1 à Téhéran, Jean-Sébastien Soldaini. C'est un candidat conservateur qui semble avoir un boulevard devant lui.
Oui, Ebrahim Raisi a vu 3 de ses concurrents se désister depuis avant-hier, lui laissant quasiment le champ libre, encore plus libre, j'ai envie de dire, car le camp sortant, les modérés, n'ont pas été autorisés à concourir pour cette élection présidentielle, avec plus de 600 candidatures invalidées. Le guide suprême garde la haute main sur ce scrutin. Non seulement il donne des consignes sur qui peut se présenter ou non, mais il décide aussi des thèmes de campagne. Il a notamment demandé à tous les concurrents de ne parler que d'économie. C'est la préoccupation première des Iraniens qui voient les prix s'envoler semaine après semaine sous l'effet des sanctions internationales. C'est évidemment la question qui est en filigrane du scrutin. Le nouveau président élu pour 4 ans sera-t-il en mesure de convaincre les puissances occidentales de lever ces sanctions pour offrir un bol d'air à la population? C'est vraisemblablement le but des conservateurs. Reste à savoir si ce scrutin leur offrira la légitimité. Une forte abstention est attendue. C'est pour ça que les organisateurs ont demandé à ce que les bureaux de vote soient ouverts de 7h à 2h du matin.
Jean-Sébastien Soldaini en ligne de Téhéran pour Europe 1. L'Euro de football, 2 nouvelles équipes qualifiées pour les 8e de finale. Les Pays-Bas qui ont battu l'Autriche 2-0 et la Belgique après sa victoire 2-1 sur le Danemark.
Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Joconde? Vous vouliez nous faire acheter une fausse Joconde, c'est et ça?
En tout cas, elle est mise aux enchères par la très prestigieuse maison de vente Christie's. Ah, il s'agit bien sûr d'une copie du tableau, mais l'histoire est vraiment formidable. Son ancien propriétaire qui est mort en 1977 s'est sans doute laissé un petit peu déborder par son enthousiasme et sa passion. Diane Chenouda nous explique.
On dirait la Joconde, mais non, ce n'est pas celle du Louvre. Pas le même sourire si subtil, ni le même regard pénétrant. Et pourtant, l'antiquaire Raymond Hecking, qui achète le tableau pour 3 francs 6 sous dans les années 50, près de Grasse, n'en démordra pas. Sa Joconde est la vraie. Pierre Etienne, le directeur international des tableaux anciens chez Christie's.
C'est vraiment l'image de la Joconde. On la reconnaît, elle est avec nous, ça c'est certain. C'était d'ailleurs la théorie de Raymond Hecking. Il était tellement persuadé que c'était la Joconde, que c'était sa Joconde, que pour lui c'était la Joconde. Et ça, eh bien, ça va être le discours de sa vie. Et il sera vraiment un très très grand orateur, un personnage avec beaucoup de charisme. Il en existe des reproductions. C'est assez fréquent, on en trouve. Mais toutes n'ont pas le même propriétaire passionné qui est Raymond Hecking et qui lui va véritablement en fait créer sa Joconde. Et maintenant, bah, ce sera la Mona Lisa Hecking, un petit peu pour toujours finalement. Et ça, la Mona Lisa Hecking, bah, elle est unique.
En fait, Hecking était persuadé que la Joconde volée au Louvre en 1911, eh bien c'était la sienne. Bien sûr, ce n'était que pure légende, mais il y croira jusqu'à la fin de sa vie.
Bon, en tout cas, si vous y croyez, il faut aller sur Internet. La vente de cette Mona Lisa Hecking, c'est une vente aux enchères en ligne jusqu'à 16h cet après-midi. Les enchères en sont tout de même à 240 000 euros.
Ah oui, quand même.
Donc bon. En tout cas, l'histoire est belle et suffisamment pour donner du prix à cette copie de la Mona Lisa du Louvre.
François Geffrier pour le journal 6h37 sur Europe 1.
Europe 1.
Et c'est un grand chef que j'accueille ce matin. Bonjour Glenn Vielle.
Bonjour.
Merci d'être l'invité du 5-7. Vous êtes un chef triplement étoilé pour votre restaurant Lousteau de Beaumanière. C'est au Beau-de-Provence. 3 étoiles et une nouvelle distinction, un trèfle vert. Et vous allez nous expliquer à quoi cela correspond. C'est aujourd'hui la journée de la gastronomie durable. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
6h39 sur Europe 1, l'invité du 5-7 est avec nous, c'est le chef triplement étoilé Glenn Vielle, à l'occasion de la journée de la gastronomie durable. C'est ça, Glenn Vielle, qui vous a valu ce trèfle vert qui s'est ajouté à vos 3 étoiles. Quel sens elle a, cette nouvelle distinction ?
Oh, il a son importance, en tout cas j'en suis très fier. C'est l'engagement qu'on a au quotidien dans nos cuisines, à aller en tout cas, je l'espère, dans la bonne direction, d'un point de vue écologique, d'un point de vue rapport à la terre, avec nos producteurs, etc. Donc c'est un vrai engagement et c'est un vrai choix en tout cas. Enfin, on s'est pas forcé, hein, ce trèfle est arrivé sans qu'on l'attende et donc voilà, on est ravis.
C'est la première fois que le guide Michelin décerne ses trèfles verts. Ça veut dire quoi ? Ça implique quoi d'être durable quand on dirige comme vous un restaurant ?
Pour moi, ça implique en fait rien. C'est en fait c'est quelque chose sur lequel on se force pas. On essaye tous les jours de faire mieux, en fait, de mieux comprendre, de travailler intelligemment pour consommer un peu moins. On a des cochons, on a des poules, on a notre potager. Voilà, on essaie de comprendre et de se dire que voilà, le changement arrive vite et qu'il va falloir être là et répondre présent.
Alors donnez-nous quelques exemples, ça veut dire quoi ? C'est l'origine des produits par exemple, c'est la lutte contre le gaspillage ?
Voilà, c'est plus possible d'une façon locale, mais encore une fois, je prends aussi des produits un peu plus loin que notre région, bien sûr. Moi, avec mes équipes, 2 fois par an, je fais des ramasses de déchets autour de la maison. Voilà, dans un périmètre très court, on nettoie tout ce que les touristes auraient pu laisser pendant la saison. Donc j'éduque, entre guillemets, mes jeunes à essayer d'avoir du bon sens, de ne pas jeter, donc ça c'est civisme, c'est tout bête, mais aujourd'hui ce qu'on pourrait changer immédiatement, ce serait déjà le civisme. Les voitures, elles vont polluer encore un petit moment parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution, mais le civisme c'est quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain et c'est toujours pas fait.
Dans la cuisine, c'est par exemple, c'est tout cuisiner, éviter de jeter certaines parties des produits.
C'est évident qu'on nous, on cuisine tout pour faire les jus, pour faire les sauces, mais encore une fois, aujourd'hui on travaille dans le luxe, c'est quand même un gros consommateur. Alors ce que le Michelin a voulu saluer, c'est aussi l'engagement et le fait de vouloir faire mieux. Et alors nous, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Hein. Il y a personne de... J'ai un ami la dernière fois qui m'a dit « on va tous mourir coupables ». Et il a bien raison. Donc il n'y a pas de gens parfaits. Il y a juste des gens peut-être qui ont envie de faire mieux. Et j'espère qu'on fait partie de ceux-là. En tout cas, on a
alors comment, quelles sont les bonnes pratiques qui vous permettent de faire mieux ?
Bah déjà, c'est d'avoir les cochons, de pousser les produits organiques à la poubelle. Donc, on a 2 cochons qu'on fait grossir grâce à des aliments qui partiraient à la poubelle. Ensuite, vous leur donnez les restes. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, on a 2 poubelles. On a une poubelle pour le plastique sur les plans de travail, une poubelle pour les produits organiques. Ensuite, on a à peu près 1 hectare de potager plus 1 hectare de blé. Voilà, on récolte quand même pas mal de légumes sur nos propres parcelles. Mais ceci étant, ça représente encore pas grand-chose. Mais chaque année, on est meilleur. Donc c'est ça qui me fait continuer parce que je vois qu'on évolue dans le bon sens. Mais encore une fois, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à fournir. Et c'est loin d'être facile.
Ça a un coût, malgré tout, d'essayer d'avoir ces bonnes pratiques, de se fournir localement, oui. Etc.
Non, enfin, ça a un coût, en tout cas, d'avoir son potager. Et c'est beaucoup plus fatigant, quelque part, mais en même temps, c'est beaucoup plus gratifiant.
Ça veut dire que pour un restaurant, disons, plus classique, plus commun, entre guillemets, c'est plus compliqué d'avoir ces bonnes pratiques, de se fournir localement,
non,
parce que ça coûte
non,
plus cher, parce que les prix sont plus serrés.
Pas du tout. Moi, c'est le fait d'avoir un potager qui est plus coûteux. Il faut du terrain, il faut des jardiniers pour l'entretenir. C'est beaucoup plus compliqué que d'acheter la Paysan Primeur et de dire « demain, je veux 50 kilos de carottes, 25 kilos de tomates ». Ça reste qu'un coup de téléphone, il arrive, il nous livre, on rejoint le frigo, on n'en parle plus. Là, non, il faut planter, il faut arroser, il faut entretenir, il faut cueillir. Mais quelle satisfaction de faire ça comme ça, quoi.
Vous avez vos potagers, vos arbres fruitiers, vous le disiez, champ de blé.
Des oliviers aussi.
Des oliviers. Vous avez même des ruches.
Ouais. On a des ruches.
Ça veut dire que l'objectif, c'est d'être quasiment autosuffisant à l'intérieur de votre domaine ? Quand même pas.
Je ne vais pas avoir un discours qui ne serait pas le bon et qui serait faux. On essaie encore une fois de faire mieux. Et si tout le monde faisait un peu mieux, ça fait quelque chose d'assez grand, d'assez porteur. On ne sera jamais en autosuffisance, ce n'est pas possible, clairement. Mais si chaque année, on grappille 0,3 d'indépendance, c'est toujours ça de fait.
Oui, ce sujet écologique, vous en avez fait un combat personnel, un vrai engagement en tout cas.
Moi, gamin, j'ai toujours été un amoureux de la nature. J'aurai un engagement, j'espère, quand j'aurai fait, je crois, mon travail en cuisine, je prendrai un engagement plus fort dans l'écologie. Quand j'aurai cette portance de pouvoir m'exprimer, d'échanger, etc., d'aller voir les jeunes, je le ferai parce que c'est quelque chose qui m'anime et c'est le combat du siècle. Hein. On ne se rend pas compte, non, on est rentré dans le combat du siècle. Hein.
Et vous disiez dès l'enfance, vous êtes passé des paysages bretons, vous avez grandi du côté de Paimpol à ces paysages provençaux qui vous entourent maintenant au Beau de Provence. Vous avez toujours vécu dans la nature, en fait.
Je suis très breton parce que je le revendique, mais j'ai pratiquement toujours habité en milieu urbain. Mais j'étais en Bretagne, voilà, parce que mon père était militaire. Mais moi, ce qui m'a animé, c'était Cousteau, c'était la chronologie de l'Afrique sauvage quand j'étais gamin le dimanche. Toutes ces émissions, c'est toujours ce que je regarde aujourd'hui à 40 ans. Hein. Moi, je regarde Season, je regarde Pêche et Chasse, je regarde tout ça. Moi, je regarde ce genre d'émissions, National Geographic. Ces émissions, je passe beaucoup de temps à regarder parce que j'adore. Je trouve qu'en plus, c'est quelque chose qui commence à s'éteindre. On ne verra plus ça bientôt.
Tout cela nourrit aussi votre créativité. On crée des assiettes aussi quand on est dans son potager ou quand on regarde ces images et quand on est dans la nature.
Je ne sais pas si ça nourrit. Tout me nourrit. Hein. Ça peut être aussi un building, certainement, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait partie de notre vie aussi. Il va falloir jongler avec les deux. Tout m'inspire, mais évidemment, quand je prends en considération le biotope autour de vos manières, et ce qu'on a aujourd'hui, c'est la pierre, c'est les terrains, c'est tout ça. Donc je m'inspire de tout. Je ne me ferme à rien. Mais en tout cas, il faut prendre conscience que...
Glenviel, restaurant Lousteau de Beaumanière, c'est au Beau de Provence. 3 étoiles et donc ce trèfle vert que vous avez obtenu au Michelin pour récompenser vos efforts pour une gastronomie durable. Voilà, on avait envie de saluer votre démarche ce matin à l'occasion de cette journée pour la gastronomie durable. Merci à vous d'avoir été avec nous.
Merci
ce matin,
beaucoup.
Glenviel.
On continue, on lâche rien, comme je dis souvent.
Bonne journée à vous, bon week-end.
Merci beaucoup, au revoir.
Europe 1.
6h46, Anissa Mbida s'installe, l'innovation du jour à suivre. À tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
6h48 sur Europe 1. L'actualité ce matin, c'est ces réquisitions. Un an de prison, dont 6 mois ferme, requis contre Nicolas Sarkozy au procès Big Malion. 14 prévenus au total attendent leur jugement dans cette affaire de fausses factures destinées à masquer une partie des dépenses de la campagne présidentielle de 2012. Le nombre de malades du Covid dans les services de soins critiques est repassé sous la barre des 1800 patients hier. Signe de l'amélioration, la levée du plan blanc dans les hôpitaux de l'assistance publique parisienne. Le dispositif était en vigueur depuis le mois d'octobre. Et puis de nouvelles frappes israéliennes cette nuit sur la bande de Gaza en réponse à l'envoi d'engins incendiaires depuis l'enclave palestinienne vers Israël. Il s'agit du deuxième accrochage entre le Hamas et l'armée israélienne depuis le cessez-le-feu d'il y a un mois. Bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour concerne la diététique ce matin. Vous avez trouvé le premier vrai faux sucre. Alors, je ne sais pas si c'est du vrai ou du faux, enfin du vrai faux sucre. Alors ce n'est pas un édulcorant, c'est du vrai sucre de canne, sauf qu'il a une teneur en sucre réduite de 40%. Expliquez-nous tout ça.
Alors, c'est du vrai sucre de canne, mais restructuré pour qu'on ait besoin d'en mettre beaucoup moins. Alors, pour comprendre, il faut rappeler que les récepteurs sucrés de la langue sont plutôt fainéants. Hein. Du coup, pour ressentir ce goût sucré, bon, on est obligé d'en mettre beaucoup. Prenez un verre d'eau, par exemple, eh bien, il faut une bonne cuillère à café de sucre pour que l'eau paraisse sucrée. Or, bah, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce sucre, tous ces excès de sucre, on finit par le stocker dans le gras des bourrelets. D'où l'idée de restructurer le principal composant du sucre, hein, le saccharose, pour le rendre plus gros, plus large, pour qu'il couvre davantage de papilles de la langue. Bah, du coup, on en mettra beaucoup moins pour avoir la même saveur. Et en plus, on conserve toutes les qualités du sucre, notamment son pouvoir énergétique, contrairement à la stevia ou à l'aspartame, hein, et leur drôle d'arrière-goût, par exemple.
Et alors, ça a été prouvé, testé ?
Oui, par plusieurs cabinets indépendants et sur des tests de goût à l'aveugle. Les recettes, selon toutes les recettes, on arrive à réduire de 30 à 50% la teneur en sucre ajouté sans faire de compromis sur le goût. Alors le goût, on sait que c'est le nerf de la guerre. Hein. Ouais. C'est pas par hasard si on boude tous les produits allégés. Ça s'appelle le sucre Incredo et il a été créé par les Israéliens de Doumatok.
C'est déjà commercialisé ? Il y a déjà des produits qui en contiennent ?
Alors ça commence tout juste. Pour l'instant, il n'y a qu'une pâte à tartiner et des cookies. Évidemment, leur Nutri-Score, il passe au vert, évidemment. Et c'est une technique qui pourrait encore s'améliorer et réduire le taux jusqu'à 80 ou 90%.
Ah oui, quand même.
Et en plus, ce n'est pas limité au sucre. On pourrait aussi avoir du sel. On garde le goût du sel, mais sans les effets néfastes sur la santé. Ça pourrait nous aider à faire un petit peu plus preuve de modération sans pour autant avoir à faire un régime.
Un credo, le sucre allégé en sucre.
Alors, c'est ça.
On aura tout vu. L'innovation d'Anissa Mbida, merci. 6h51. Et c'est l'heure de la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 à travers le monde. On débute aux États-Unis ce matin. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une de la presse américaine ?
Eh bien, la vague de chaleur dans l'Ouest américain, l'une des plus extrêmes observées dans la région si tôt dans l'année, souligne le Washington Post, des centaines de records de température battus dans l'Utah, le Wyoming et le Montana, 46 degrés atteints à Las Vegas. Face à la canicule, les réseaux d'électricité sont en alerte au Texas et en Californie, où les autorités demandent aux habitants de limiter leur consommation, explique USA Today. Ces vagues de chaleur pourraient devenir la nouvelle norme à l'avenir. Le changement climatique frappe l'Ouest avant l'arrivée de l'été, titre de son côté le New York Times. Le réchauffement de la planète empire les choses et épuise le manteau neigeux des montagnes. La région boue alors qu'elle a déjà connu au printemps la pire sécheresse depuis 20 ans. D'après l'Arizona Republic, ce vendredi, la ville de Phoenix, déjà sous la brume à cause d'incendies dans la région, pourrait battre un record historique avec 47 degrés attendus.
Spectaculaire ces chaleurs dans l'Ouest américain dès le mois de juin, avant même l'arrivée de l'été. Merci Alexis Guilleux, depuis les États-Unis pour Europe 1. Direction l'Égypte à présent. Bonjour Ariane Lavrieux.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous marque dans les journaux égyptiens aujourd'hui ?
Bien, c'est la colère des femmes célibataires discriminées dans les hôtels. Marianne, 30 ans, raconte au site Racif 22 « Je venais suivre une formation à Alexandrie, mais j'ai été refusée par 6 hôtels. Alors j'ai dû passer le reste de la nuit sur une chaise dans un café. » Arbar Alioum précise que cette discrimination vise les Égyptiennes et les femmes des pays du Golfe qui ont moins de 40 ans et ne sont pas accompagnées d'un homme de leur famille. Un hôtelier se justifie en invoquant des instructions venant des autorités égyptiennes, de la police des mœurs. Le ministère de l'Intérieur a démenti. Le site indépendant Al-Mawqif El-Masri explique que la police et les hôteliers prétendent en fait lutter contre la prostitution en empêchant les femmes de voyager seules. Et ça, c'est contraire à la constitution égyptienne qui garantit l'égalité. C'est pourquoi 2 avocats ont saisi la justice, rapporte le site Masraoui.
Ariane Lavrieux au Caire pour Europe 1. Et nous terminons notre tour du monde du jour. Aux Pays-Bas, avec vous Isabelle Horry, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lu la presse hollandaise, qu'est-ce qui fait les gros titres à Amsterdam ?
C'est le carrosse en or de la famille royale, celui dans lequel elle parade pour les grandes occasions. Il est exposé depuis ce matin au musée d'Amsterdam. Le roi veut déclencher un débat de société, explique le média public NOS, car sur tout un côté du carrosse court une peinture, vieille d'un siècle, jugée aujourd'hui raciste et colonialiste. Les habitants noirs des anciennes colonies offrent des cadeaux de manière soumise à une femme blanche sur un trône, décrit le journal AD. Le carrosse vient d'être restauré, mais le roi n'a rien voulu changer, précise le NRC Handelsblatt, au motif que c'est du patrimoine culturel et qu'il n'est pas question de réécrire l'histoire. Alors la Maison d'Orange s'y promènera-t-elle à nouveau à la fin de l'exposition ? Willem Alexander veut d'abord voir les réactions de ses sujets.
Isabelle Horry, merci à vous depuis Bruxelles, pour Europe 1 précisément. Il est 6h54, c'est vendredi matin, courage pour le réveil. La journée démarre le 7-9, démarre dans quelques secondes avec Mathieu Béliard. A tout de suite. Europe 1. 6h57 sur Europe 1. Très belle journée, je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve lundi avec toute l'équipe du 5-7 avec beaucoup de plaisir. Bonjour Mathieu Béliard.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Vendredi 18 juin 2021 sur Europe 1, le monde a changé, on va vous le raconter. Alors évidemment beaucoup de politique ce matin, nous sommes à 2 jours du vote, les régionales au programme de l'édito politique de Nicolas Bétou, c'est un brouillon de la présidentielle nous dira-t-il. Les forces en présence, les équilibres, le point sur l'opinion aussi avec Jérôme Fourquet à 8h15, le politologue qui répond en direct à Sonia Mabrouk, et puis nous sommes dans vos régions, dans vos cantons bien sûr, aussi dans nos journaux. Autre chose et en musique. L'heure est à la respiration, à la réouverture. Hier, les masques tombaient, le couvre-feu s'éloignait. Et si on sortait en boîte ? Les boîtes de nuit sont les seuls établissements à ne jamais avoir ouvert depuis le mois de mars 2020. C'est long et les exploitants attendent le protocole de réouverture lundi, jour de fête de la musique. Vous allez entendre qu'il faudra en vouloir pour sortir, probablement avec un pass sanitaire, peut-être même avec le masque sur la piste. Et cette question au fond, peut-on rouvrir les boîtes de nuit ? Cet été, on va en parler ce matin. Voilà quelques éléments du programme. Il est presque 6h59 et Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Et pour les orages.
Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Mathieu. Les orages. Alors, c'est la la deuxième vague qui est en train de quitter la France. La troisième se prépare déjà, puisque nous sommes sous l'emprise vraiment de vagues nuageuses et orageuses depuis maintenant plusieurs jours, et ça va durer. Et je peux d'ores et déjà situer un peu la semaine prochaine. Les températures seront beaucoup plus fraîches et seront donc plus respirables. Pour ceux qui souffrent de la chaleur, ça sera pas mal. Bon, bref, fermons la parenthèse. Aujourd'hui, c'est la moitié nord qui est concernée par les orages, la Normandie, le Nord, le Pas-de-Calais, la Picardie. Nous aurons aussi des orages sur la région parisienne. Ils seront espacés. C'est quand même moins important qu'en Normandie. Et puis, dans les régions de la moitié sud, sans qu'il y ait un ciel clair, loin s'en faut, bien nous aurons quand même un temps relativement agréable et supportable. Bon, les températures aujourd'hui sont en baisse, mais pas partout. Lyon, Grenoble, Strasbourg ont des températures encore de 33 à 34 degrés. Vous voyez que c'est quand même bien élevé, si je puis dire. Et puis, samedi et dimanche, eh bien, une nouvelle zone d'orage arrive. Demain matin, elle sera sur les côtes atlantiques. Dimanche, elle traverse la France. Lundi, il y en aura un petit peu partout, très éparpillé, avec des températures de 23 à 24 degrés. Vous voyez que c'est tout à fait raisonnable, même un peu frais. Et puis mardi, ça commencera un petit peu à s'arranger. Voilà, vous savez tout, ou presque tout.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde changer.